Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidée par les haleurs. Des peaux rouges criardes.
La tempête a béni mes éveils maritimes. Plus léger qu'un bouchon, j'ai dansé sur les flots qu'on appelle rouleur éternel.
J'ai heurté, savez-vous, d'incroyables Florides.
Le bateau ivre. Un vendredi par mois, de 22h30 à minuit, sur Radio Campus Paris.
Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à bord de notre bateau ivre. Nous mettons à nouveau le cap sur un territoire de poésie en votre compagnie. Ce soir, vous entendrez des poètes plus ou moins connus, comme Cluef ou Ernest Pépin, et puis vous découvrirez aussi de nouvelles plumes, comme Isadora Waltz. Dans notre première demi-heure jusque 23h, vous pourrez découvrir une interview d'un poète, Urbain Reynaldo, qui met de la poésie en musique. De 23h30 à minuit, vous serez en compagnie de Marc-Alexandre Aubin, dit Capitaine Alexandre, un poète slameur qui se veut capitaine de son âme. Et puis pour finir, de 23h30 à minuit, vous entendrez la météo des mots de ce mois de novembre. Le tout, bien sûr, sera traversé de poésie, de textes déclamés, chantés, murmurés et préparés par toute notre équipe. Vous êtes prêts? Alors, larguons les amarres.
Le bateau ivre.
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 Soyez les bienvenus en territoire de poésie. Autour de moi ce soir, Diana, Jeanne, Sophie, Louis et Yves. Pour l'instant, d'autres amis nous rejoindront plus tard. Alors, chacune de nos émissions a un thème. Et ce soir, Louis, je pense, ce sont vers des sirènes que nous allons.
Tout à fait, ce sera le chant 12 de l'Odyssée que je vais vous lire tout de suite pour vous introduire ce bateau ivre.
Eh bien Louis, on t'écoute.
Ah mes amis, je vais vous faire connaître les prédictions de la divine Circé, afin que vous sachiez tous si nous périrons ou si nous échapperons à la mort qui nous menace. Circé nous défend d'écouter les harmonieux accents des sirènes. Elle nous ordonne de fuir leurs prairies émaillées de fleurs, et elle ne permet qu'à moi d'entendre leurs chants. Mais aussi, vous devez m'attacher avec des cordes et des chaînes au pied du mât élevé pour que j'y reste immobile. Si je vous implore et si je vous commande de me délier, alors entourez-moi de nouveaux liens. Tandis que j'apprenais à mes compagnons tous ces détails, nous apercevons l'île des sirènes, car notre navire était poussé par un vent favorable. Mais tout à coup, le vent s'apaise, le calme se répand dans les airs, et les flots sont assoupis par un dieu. Les rameurs se lèvent, plient les voiles, et les déposent dans le creux navire. Puis, ils s'asseyent sur les bancs et font blanchir l'onde de leurs rames polies et brillantes. Aussitôt, je tire mon glaive d'airain, et je divise en deux morceaux une grande masse de cire que je presse fortement entre mes mains. La cire s'amollit en cédant à mes efforts et à la brillante lumière du soleil, fils d'Hyperion. Puis j'introduis cette cire dans les oreilles de tous mes guerriers. Ceux-ci m'attachent les pieds et les mains au mât avec de fortes cordes. Ils s'asseyent et frappent de leurs rames la mer, pieds et poings liés.
Alors ça, c'était pour les sirènes, pour l'introduction. Louis, Sophie, à présent, dites-nous en plus sur pourquoi les sirènes, pourquoi cette introduction, pourquoi ce thème ce soir?
Eh bien oui, merci Louis en tout cas pour cette lecture d'un extrait du chant 12 de l'Odyssée. Et pour ouvrir la thématique de la soirée, qui se propose d'explorer les liens entre poésie et musique, un mot de ces divinités qui hantaient la mer à l'ouest de la Sicile.
Vous l'introduisez comme ça, c'est irrésistible.
Les sirènes dont il est question dans cet extrait ne sont pas les jolies créatures à queue de poisson que l'on rencontre dans les contes d'Anderson par exemple, mais de grands oiseaux à tête de femme, sorte de harpies anthropophages dont le chant était certes envoûtant et magique, mais qui par ce chant précisément attirait les navigateurs devenus fous sur des récifs pour en faire leur pâture. Deux héros seulement échappèrent à leur charme fatal. Ulysse, on vient de l'entendre dans le chant 12, qui eut l'idée géniale d'enfoncer des bouchons de cire dans les oreilles de ses matelots pour qu'ils n'entendent pas le chant de ces créatures funestes, et qui, ruse suprême, je le souligne, se réserva lui le droit de jouir de ce chant en se faisant attacher au mât de son bateau. Et puis, le deuxième héros, Orphée, le plus grand poète légendaire de la Grèce, comblé de multiples talents par Apollon et qui, à l'occasion de l'expédition des Argonautes, réussit à surpasser le chant des sirènes par la puissance mélodieuse et envoûtante de sa lyre et de sa voix, détournant ainsi les matelots des écueils qui leur avaient été réservés. Il est d'ailleurs intéressant de noter, au regard de notre sujet de ce soir, poésie et musique, que le poète Orphée n'est pas représenté avec une plume à la main ou écrivant, mais avec un instrument de musique, la lyre, qui l'accompagne de son chant ou qui accompagne son chant. Preuve, s'il en est besoin d'en fournir, que la poésie et la musique sont indissociables, je dirais même inextricablement liées. Et je me permets très brièvement un saut chronologique qui nous transporte au Moyen-Âge, autour du 11e-12e siècle, m'inspirant de l'ouvrage très envoûtant lui aussi du poète Jacques Roubaud, La fleur inverse, qui explore l'art des troubadours. Et voici ce qu'il dit, Jacques Roubaud. « La poésie est un métier où intervient aussi bien l'art musical que l'art verbal. Et j'ajoute que ce métier met en valeur et à l'honneur la personnalité poétique du troubadour, c'est-à-dire sa voix. » Cette voix, ce chant qui se déployait à ciel ouvert dans des décors naturels pour célébrer l'amour, sans forcément d'objet amoureux d'ailleurs, eh bien ce chant concurrençait celui des oiseaux.
Et bien voilà, les oiseaux, les sirènes. Quelle merveilleuse introduction pour cette émission qui parlera donc de poésie et de musique. Vous l'avez dit, et je vous propose de commencer tout de suite par de la poésie mise en musique. C'est Un jour je tairai le monde, un poème d'Isadora Waltz, mis en musique et déclamé par Urbain Rinaldo, et c'est Diana à la guitare.
Un jour, je tairai le monde, la rumeur des autres, le bruit de ce qui n'est pas nous. Les romans imparfaits, les amours inachevés, puis je me tairai moi. Et t'aimerai comme une statue, le cœur battant la pierre, la larme arrêtée. La main inoublieuse de ton corps, je te tairai enfin. Comme on donne sa foi, son autre, sa caresse, son écueil, et quand nous serons dus, le monde pourra recommencer. Puis je me tairai moi. Et t'aimerai comme une statue, le cœur battant la pierre, la larme arrêtée. La main inoublieuse de ton corps, je te tairai enfin. Comme on donne sa foi, son autre, sa caresse, son écueil, et quand nous serons tus, le monde pourra recommencer.
Quelques petites notes de guitare, c'était « Un jour je tairai le monde », un poème d'Isadora Waltz, mis en musique et déclamé par Urbain Rinaldo avec Diana à la guitare. Je vous le disais en début d'émission, plusieurs amis poètes autour de la table, Diana, Jeanne, Sophie, Louis et Yves. Alors le magnifique poème d'Isadora que nous venons d'entendre parle de silence et d'écoute. Or pour dire de la poésie, il faut avoir des personnes qui écoutent. La question que je voudrais vous poser, chers amis, est-ce que vous arrivez à dire de la poésie au quotidien? Et puis comment bien écouter un poème? Comment bien choisir le moment d'en déclamer un, d'en écouter un? Est-ce que l'un de vous souhaite prendre le micro? Louis.
Comment bien choisir le moment de dire un poème?
Exactement.
Ça dépend de quoi on parle, puisque soit on parle d'une performance poétique, donc c'est-à-dire d'un lieu ou d'un moment qui se prête particulièrement à la poésie. dont le but est de dire de la poésie, comme ça peut être le cas au Club des Poètes qu'on avait entendu la dernière fois. Et je crois qu'on va le réentendre ce soir d'ailleurs.
Tout à fait.
Mais par exemple, si on prend le métro, il me semble que c'est un lieu qui est beaucoup moins propice à la poésie. Non, mais c'est vrai, fondamentalement. Mais c'est justement parce que c'est moins propice à la poésie qu'on peut en faire un moment poétique.
Oui, parce que certains le font, font des espèces de voilà. d'attentats poétiques, je mets des gros guillemets, mais oui. débarquent dans le métro et se mettent tout d'un coup à parler de poésie alors que c'est complètement incongru, que on pourrait croire que ça n'a pas sa place
non, effectivement.
Dans un lieu public.
C'est dans la surprise. Enfin, en tout cas, il me semble qu'il y a la possibilité d'une certaine poésie.
Sophie ?
Oui, moi je suis d'accord avec Louis et je pense que...
Merci Sophie.
Non mais je suis d'accord avec Louis, effectivement, tout dépend du lieu où on se trouve et à la fois, il y a ces moments un petit peu déplacés, c'est vraiment le cas de le dire, c'est pas là qu'on s'attend à ce que un extrait de poésie soit dit, hein, le métro ou la rue, mais en fin de compte, tout est sujet poétique d'une certaine façon, donc pourquoi pas ? Enfin, je veux dire, voilà. Maintenant, il y a des moments effectivement qui se prêtent plus, mais ça, c'est des questions d'humeur aussi. Enfin, si on parle vraiment subjectivement.
Et quel est votre plus beau souvenir de poésie en public ? Alors, ce qu'est la poésie qu'on dit peut-être pour soi, mais le plus beau moment que vous ayez vécu d'une poésie déclamée en public, ce serait lequel ? Louis, alors je regarde tout le monde autour de la table, Jeanne, Diana, tout le monde se regarde.
Eh bien, peut-être, peut-être un poème qui a été déclamé dans le métro, justement, un poème de Prévert, je me souviens, d'un vieux monsieur qui, comme ça, est entré dans la rame et qui a dit, et justement, j'ai été surprise de ce côté décalé, je ne m'y attendais pas du tout, et ça m'avait touchée en plein cœur et j'avais entendu. Tu parlais tout à l'heure d'écouter, entendu en tout cas les paroles peut-être plus fortement, plus puissamment que si je les avais entendues dans un lieu à la base dédié à la poésie. Donc ça, voilà, c'est dans ce décalage-là en fait que c'est ressorti plus grandement.
Yves s'approche du micro.
Non, en fait, je voulais revenir justement à la première chose. Moi, je crois que ces moments lyriques, il faut les fuir justement parce qu'ils sont épouvantables, parce qu'ils donnent une attente en fait. Il y a toute une attente autour de ce poème.
Dans les lieux poétiques, tu veux dire.
Voilà. Ouais. Et donc tout le monde prend un ton, une pause, un air inspiré en se grattant un petit peu la barbiche. Et je me souviens que dans le nuage en pantalon, Mayakovsky disait qu'il voulait utiliser la poésie comme un marteau, justement. Il y avait une violence dedans et qu'on retrouve dans le futurisme. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans le métro, je trouve que c'est un excellent moment. Et même dans tous les pires moments, lorsqu'on se fait virer d'un appartement, c'est à ce moment-là où il faut réciter de la poésie et pas lorsqu'on est heureux parce qu'on rentre dans un nouveau lieu. Voilà, moi je pense que c'est à ce moment-là où elle est salutaire. Et une dernière chose.
Là où on ne l'attend pas.
Voilà, et c'est là où elle est la plus folle et la plus décalée et qu'elle prend une profondeur, en fait, la plus forte. Par exemple, il y a dans un Corto Maltese, il est transféré en Sibérie. Il se fait attraper, je ne sais plus, par Rasputin ou les gardes rouges.
Corto Maltese, la bande dessinée, hein, je
précise
au cas où.
Oui, c'est ça. Et donc, il est en train de se promener. Je crois qu'il est promis à une mort prochaine. Et là, c'est assez stupéfiant parce que Hugo Pratt, donc le créateur de Corto Maltese, lui fait réciter un poème de Rimbaud, qui est le fameux « Par un matin d'été picoté par... ». Et il se met...
Sensation.
Voilà. Et il se met à le réciter dans sa tête, intérieurement. Et alors qu'il est dans un paysage de neige, qu'il est promis à une mort prochaine, et c'est à ce moment-là, je trouve, où il a vraiment toute sa place, vraiment, plus qu'au bord de mer, à contempler les flots.
Le bateau ivre.
Le bateau ivre.
Le bateau ivre.
Diana.
Le bateau ivre.
Un vendredi par mois, de 22h30 à minuit, sur Radio Campus Paris.
Eh bien oui, Diana, c'est à toi. Tu nous proposes un autre poème d'un poète pas forcément très connu, qui s'appelle Cluève et que tu as traduit.
Tout à fait, Albin, bonsoir. Et c'est pas un poème, c'est pas vraiment un poème que je vais vous proposer, c'est un texte que je trouve très poétique et qui parle de la poésie et de l'art dans notre vie.
Et qui s'appelle ?
Et qui s'appelle, en fait, c'est un extrait d'un roman de Yevgeny Kluev, donc un écrivain russe qu'on a commencé à traduire avec Isadora pendant cet été. Le roman s'appelle « Entre deux chaises » et je vais lire un extrait donc, de ce roman.
Entre deux chaises.
Entre deux chaises.
Mais tu es bien assis sur ta chaise, on se rassure.
Tout à fait, tout va bien.
On t'écoute, Diana.
Et juste pour expliquer pourquoi j'ai choisi cet extrait, J'ai pensé, comme on parle des chants trompeurs, des sirènes qui attirent les voyageurs et qui leur trompent en fait par leur chant sublime, je trouve que ce texte va très bien aller avec notre sujet de notre émission. Et donc le personnage de cet du roman, il arrive à un carrefour où il voit trois flèches qui indiquent trois directions. À droite, tu obtiendras ce que tu voudras, mais tu ne le garderas pas. À gauche, tu garderas ce que tu obtiendras, mais tu ne le voudras pas. Tout droit, tu voudras ce que tu garderas, mais tu ne l'obtiendras pas. L'art, pensa Pierre-Paul. Donc, le personnage s'appelle Pierre-Paul. L'art, pensa Pierre-Paul avec amertume. C'est lui qui se moque de moi. C'est lui qui guette l'homme à chaque pas, par un souvenir à moitié oublié, par un détail de livre revenu en mémoire et encore, par un lapsus, un malentendu, qui sont aussi un art. C'est lui qui nous mène dans la forêt impénétrable et s'y joue de nous. Et l'homme, joué par lui, ne voit plus le monde comme il est. Mais qu'est-ce qui lui est donné en échange de ce monde ? Tu obtiendras ce que tu voudras, mais tu ne le garderas pas. C'est très juste. Tout ce que tu désires, l'art te le donne, mais pas pour toujours. Il te le donne pour quelques minutes. Tu veux le garder pour toi ? Regarde, et voilà, elle s'est envolée, volatilisée, et la nuit cherche toujours. Tout à l'heure, tu avais tout, même ceux dont tu ne pouvais pas rêver. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Comment l'as-tu laissé partir ? Comment n'as-tu pas remarqué que tu as tout perdu, lâché, manqué ? Tu regardes et il n'y a rien, si ce n'est la vieille assise sur le seuil et devant elle le baquet brisé, poisson d'or de l'art. Tu garderas ce que tu obtiendras, mais tu ne le voudras pas. Cela aussi est juste. Oh, comme c'est juste. Tu peux t'ingénier par la force de la pensée ou juste par la force pénétrer dans le mystère de l'art, dans son sanctuaire, mais voilà que tu es, et alors ? Où est le mystère ? Il n'y en a pas, mais tu tiens dans tes mains un morceau de tuile, quelques lignes sur le papier. Tu n'as pas besoin de tout cela. Pourquoi ? Tu as voulu autre chose, d'autre chose. Tu as rêvé quand tu pénétrais en cachette dans le sanctuaire. À quoi bon garder ce morceau de tuile, quelques lignes sur le papier ? Jette-les. Il n'y a pas plus de mystère que dans une lampe magique qu'on peut aussi décomposer pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur et s'étonner juste ça, branchette fragile de l'art. Tu voudras ce que tu garderas, mais tu ne l'obtiendras pas. Bon, cela aussi est la vérité. Vérité amère, la plus amère de toutes les vérités. C'est bien ça. Même si tu le veux, le prends, tu le tiens dans tes mains, tu ne l'obtiendras pas malgré tout. C'était à toi, semblait tien, mais ne l'était pas. Ce n'était à personne. Mais le temps, mais le vent le poussaient vers une côte, puis vers une autre, et puis voilà, vers la tienne aussi. Mais pourtant, pas à toi. Possède un jour, des années, toute ta vie, possède-le, mais il ne sera pas à toi. Tu ne vas pas l'apprivoiser. Oui, je suis avec toi, même plus, oui, je t'aime, mais cela ne veut rien dire. Il n'y a pour toi ni joie ni paix, l'oiseau bleu de l'art. Ainsi, ayant tout compris, Pierre-Paul s'est mis à marcher au hasard, peu importe où, cher art, art perfide.
Merci beaucoup, Diana, pour ce texte de Clueff que tu viens de nous déclamer, de nous réciter à l'instant. Je me tourne vers la droite de notre plateau, puisqu'il est là depuis le début de l'émission, mais on l'introduit seulement à l'instant. Bonsoir, Robert Rinaldo.
Bonsoir.
Vous êtes notre invité de ce soir, notre invité poète. Invité poète et également musicien, puisque vous mettez certains poèmes en musique. On en a écouté un tout à l'heure, une de vos compositions. On en écoutera une autre tout à l'heure. Et c'est Diana qui est là pour vous interviewer.
Bonsoir Urbain.
Bonsoir Diana.
Bienvenue au bord de notre bateau ivre. Alors je voudrais pour commencer la première question, comme on parle des voyages, des bateaux, je voudrais vous demander comment est-ce que vous avez commencé votre voyage dans le monde de l'art ?
Alors, mes parents avaient acheté à mon frère un instrument, si on peut appeler ça un instrument botampi. Alors, vous êtes trop jeune pour savoir ce que c'était. C'était un petit clavier de 2 octaves avec des touches numérotées et puis un autre petit clavier avec des boutons d'accordéon pour faire les accords. C'était un instrument qui avait un son absolument ignoble. Vraiment ignoble.
Ça démarre
mais on pouvait faire de la musique avec. Et donc, c'était le cadeau de mon frère que je n'avais pas le droit d'utiliser, donc j'utilisais en cachette. Et je jouais sous cet instrument et je cherchais une belle note. Donc cet instrument m'a appris à improviser, parce que les autres notes étant moches, il fallait trouver l'autre.
Aller au-delà de la dissonance.
Et
ouais, mais...
Voilà, c'était voilà. Et puis après, j'ai fait des études de piano, je suis devenu professeur de piano. Résultat, j'ai commencé par un instrument qui était absolument immonde. Mais ce qui était sublime, c'est que quand j'ai touché un vrai piano, c'était un bonheur absolu. C'est-à-dire que ce qui est génial quand on fait un art comme ça, c'est de ne pas commencer par le next plus ultra au point de vue sonore. C'est-à-dire que l'enfant aujourd'hui qui a un Steinway chez lui, ben, ça, il n'a pas d'intérêt d'avoir quelque chose d'autre parce qu'il a le next plus ultra. Et puis il ne s'en rend même pas compte qu'il est totalement blasé.
Il faut commencer par le moche.
Complètement. Complètement.
Oui, c'est très intéressant. Donc, il faut vraiment avoir la possibilité de comparer pour apprécier ce qu'on a, en fait.
Complètement.
Alors, souvent, on dit, pour revenir plus proche à vos chansons et votre musique que vous composez, souvent, on dit que la musique empêche la compréhension des textes, car la mélodie attire trop d'attention et nous éloigne des paroles. J'entends ça très souvent comme reproche pour les chansons. Mais je trouve que dans vos œuvres, la musique, au contraire, souligne les textes et les renforce encore plus. Pourriez-vous nous décrire la genèse de votre travail? Comment vient l'inspiration à partir d'un poème? Comment vous choisissez vos poèmes?
Alors, je vais répondre à l'envers. Pour la première question, qui est le rapport entre la musique et les poèmes, j'ai mis en musique un poète antillais qui s'appelle Guy Tirolien, qui était un ami, enfin un collègue de travail entre guillemets d'Aimé Césaire. Ça fait partie de cette mouvance de la négritude, et qui est Marc Galantais, et qui est décédé en 88. Et c'est aussi lui qui a aidé à créer les éditions Présence africaine, qui sont dans le cinquième. Voilà. Donc je mets en musique ces poèmes. Il est décédé, donc je vais voir sa veuve pour avoir l'autorisation de les déposer à sa SACEM pour exploiter l'œuvre. Et je vais chez elle à Marc Galante. Il y a un petit piano chez elle, je m'installe, je joue, et j'étais avec mon frère qui était dans mon dos. Donc je suis face à un mur, je ne vois pas ce qui se passe derrière moi, je ne vois pas ce qui se passe, si elle apprécie, elle n'apprécie pas, je n'en sais rien, je ne sais pas. Donc je chante pendant un quart d'heure, sans me retourner par peur qu'on me dise non, parce que j'avais passé quand même quelques années à faire ce travail. Et quand j'ai terminé de chanter, je me retourne, et en fait mon frère m'explique après qu'elle disait les poèmes en même temps que moi. Et en fait, tout mon travail est basé sur ça. C'est-à-dire que je veux que lorsque je mets un texte en musique, si quelqu'un le dit à côté de moi, on le dit à la même vitesse. Donc, je ne fais pas de la musique comme on a écouté dernièrement au théâtre, enfin, au Club de la Poésie, Poulain qui a mis Apollinaire en musique.
C'est pas la chanson.
Donc, c'est pas de la chanson. Mmh. Et le but, c'est que le texte soit mis en avant. Vraiment, et surtout le texte parlé, c'est-à-dire qu'il faut que la mélodie soit le plus proche possible du texte. Ce qui sous-entend que, en fait, le texte, c'est quelque part le texte qui crée la mélodie. C'est moi, entre guillemets, mais c'est le texte, je suis très, 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 très proche du texte.
Alors, je vous propose peut-être d'en écouter un exemple, d'écouter une première de vos compositions. C'est une mise en musique de « À moi la nuit », un poème d'Ernest Pépin.
La nuit de mes ancêtres éparpillés, à moi la nuit mobile que le rêve pousse dans un ravin, à moi la nuit opaque où l'amour noie son chagrin, à moi la nuit suspendue à l'éclair de ton rire, à moi la nuit étoilée de nos baisers, à moi la nuit surgit de la forêt de tes yeux, à moi la nuit inconsolée d'avoir raté le train de ton voyage, à moi la nuit inquiète de sauver la rosée. La nuit assermentée qui témoigne d'un des amours, à moi la nuit tendant le fruit mouillé de ton sexe, à moi la nuit blessée, à moi la nuit secrète comme le jardin des amants, à moi la nuit étonnée d'allumer
nos vieux corps. À moi la nuit riche d'avoir donné ta nudité. À moi la nuit qui sent bon le romarin au bord de toi. À moi la nuit que mes mots couvrent sous ton ventre. À moi la nuit qui se tait pour mieux entendre notre amour. La nuit imprimée sur la pierre tendre, à moi la nuit dans le buis bleu de tes cuisses. À moi la nuit, à moi la nuit, à moi la nuit, à moi la nuit.
C'était « À moi la nuit », un poème d'Ernest Pépin mis en musique et déclamé par Urbain Reynaldo. Urbain Reynaldo qui est notre invité poète de ce soir.
Pour continuer, comme on vient d'écouter un poème d'Ernest Pépin, et pour rester avec ces poètes comme Ernest Pépin, Max Ripon, Guy Turlien, dont les textes vous aimez beaucoup, je suppose, et vous travaillez beaucoup avec ces poètes, d'où vient votre amour pour ces poètes, justement, et qu'avez-vous en commun, en fait, et qu'est-ce qui vous touche dans leurs textes que...
Alors, j'ai quitté la Guadeloupe à 13 ans, donc je suis venu en France métropolitaine, comme on dit, et quand on est ado, vivant en Guadeloupe, on ne s'intéresse pas du tout à la littérature antillaise, mais vraiment, mais pas du tout. On n'a qu'une envie, c'est apprendre autre chose. Donc, je m'intéressais à la littérature, entre guillemets, française. Voilà. Et quand on part et qu'on est nostalgique de son pays, alors on ne s'intéresse plus du tout à la littérature. On s'intéresse, hein, voilà, c'est un va-et-vient incessant et ridicule, mais c'est comme ça. Et donc je me suis, pour me remémorer Marie Galante, qui est une île un peu particulière, d'où viennent Max Ripon et Guy Tyrolien, il y a un recueil qui est sorti en 61 qui s'appelle « Bal d'or » de Guy Tyrolien. Et il y avait un poème que tous les enfants ont appris, les enfants antillais, guadeloupéens, etc., ont appris, qui est la prière du petit nègre, qui est un enfant qui fait une prière au Seigneur en disant « Je ne veux plus aller à leur école ». Et on a tous appris ça. Et mais c'était un pinsum, parce qu'au début, c'est un texte qui est relativement long, qu'on ne comprenait pas vraiment très bien, etc. Et puis, quand on est un peu plus mûr,
on relit ces textes-là,
et ça a une saveur extraordinaire, parce que c'est vraiment des textes qui parlent vraiment. Donc, ça me parlait alors que je n'étais plus chez moi. Mais en fait, j'ai entendu une interview de Césaire qui disait que tout le travail qui était fait de façon intellectuelle, en fait, par des Antillais, était souvent fait par des Antillais déplacés. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on est dans une situation en Guadeloupe, il y a des trucs qui sont un peu c'est une situation un peu particulière quand même. Hein. Quand on vit là-bas, on ne se rend pas compte de ça. Et c'est quand on sort de là et qu'on vient ailleurs, qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui sont bizarres.
Donc voilà. On s'intéresse toujours à choses qu'on n'a pas, en fait.
Complètement. Et eux, ils ont, voilà, ces deux-là, je parle de Guy Tyrolien et de Max Ripon, et Marie Galante, ont... des mots qui me touchent beaucoup, parce que voilà, c'est une façon de parler de l'île. Alors c'est Max Ripon qui est très étrange, parce qu'il a centré toute son œuvre sur son île. C'est un défenseur acharné de son île, sauf que ces textes sont totalement universels, parce que ça touche, chacun pourrait parler entre guillemets de son pays comme ça, et avec une force incroyable, mais c'est parce que il ne parle que de son île et que de sa toute petite île qui ne tient même pas dans une main.
Et voilà, en fait, ça dépasse complètement l'île en question. Voilà.
Et quand vous dites que quand vous étiez à Guadeloupe, vous ne vous intéressez pas à cette littérature, qui étaient vos poètes préférés, s'il y en avait, pendant votre enfance?
Ah bon, je n'écoutais pas du tout.
Vous ne l'écoutez pas du tout?
Non, vraiment. J'étais quelqu'un de sérieux, vous savez, avant. J'étais quelqu'un de bien.
Comme quoi, rien n'empêche, on peut tourner mal après.
Ah oui, non, complètement, complètement. Il y a toujours un espoir. Voilà. Je dis aux enfants qui ne s'intéressent pas aux choses sérieuses, ça viendra après.
On peut devenir poète à l'âge adulte.
Cela dit, je te dis correction, je ne suis pas un poète. Je mets en musique des poètes, mais je ne suis pas un poète. J'écris des chansons, ça n'a rien à voir.
Alors je corrige, on peut s'intéresser à la poésie en tant qu'adulte. Cette maladie peut apparaître tardivement.
On n'est pas obligé de commencer. Enfin, j'ai tout fait tardivement, et tant mieux, en appréciant beaucoup plus. Voilà, je suis un être tardif.
A late bloomer.
N'est-ce pas ?
Et Emily Dickinson, ça lance.
She was a late bloomer too.
Diana.
Je propose, comme on a parlé de tous ces poètes-là, je propose la deuxième chanson.
Absolument, c'est Négritude. Alors là, cette fois, c'est un texte de Guy Tyrolien.
Qui est adressé à Aimé Césaire, qui était dans la tourmente quand il a sorti le mouvement de la négritude et qui a eu beaucoup de revers parce qu'on a pensé que c'était du racisme alors qu'il voulait dénoncer le colonialisme. Et lui, pour défendre Césaire, a écrit ce texte sur la négritude.
La négritude de Guy Tyrolien, mis donc en musique.
Mais accompagné par Diana.
Urbain Rinaldo et mis en musique. accompagné à la guitare par Diana.
Jeunesse du monde, je sais qu'il se chauffait au brasier de ta voix, mais ta jeunesse même leur était une offense. Et quand tu dévoilais sur ton corps désarmé l'ardente floraison des hautes cicatrices, bien sûr qu'il s'empressait de cueillir sur tes cils pour la monter en perles toute larme accomplie, mais ton silence même leur était insolence. Et si proclamait l'allégresse des sens. Je sais bien qu'il buvait le vin trouble des sangs, mais leur ivresse même leur était indécence. Un jour, tu comprendras que ta musique est morte. Qu'il n'ait plus d'oreilles que tu puisses séduire. Ta flûte est leur tam-tam, ton tam-tam vacarme. Et quand tu crois chanter, il s'effraie de tes cris. Sous la vieille guitare, des sentiments humains. Est-il des cordes sourdes aux baisers de nos doigts? Tire de ton balafon la chanson de ton sang. Ensemence ta nuit et les chiens se tairont. Thank you.
C'était La négritude de Guy Tyrolien, un poème mis en musique par notre invité de ce soir, Urbain Reynaldo, avec Diana à la guitare. Et ça tombe bien car c'est Diana qui enchaîne la prochaine question.
Avec grand plaisir. Au début de l'émission, on a parlé d'art perfide, donc le texte que moi, j'ai lu au début de l'émission. Donc l'art perfide qui se joue de nous, nous tourne la tête et finalement on reste avec les mains vides. Et je cite encore cette phrase, « L'homme joué par lui ne voit plus le monde comme il est, mais qu'est-ce qui lui est donné en échange de ce monde ?»
Ça c'est Cluef, hein, le texte
c'est Cluef,
que tu
sûr.
Cites. Et du coup, la question de Cluef vous va directement, Urbain
oui,
Reynaldo.
Il faut vraiment qu'il réponde à ça.
Absolument.
Vous avez
pas
deux
de
heures,
choix.
Enfin non, trois minutes. Mais y a-t-il une réponse à la question? Je vous sens perplexe.
Vous pouvez utiliser l'avis du public aussi. Ou le 50-50.
Ah, avis du public. Alors.
Une autre question peut-être, Diana.
Alors, si vous voulez l'autre question. La question qu'Isadora m'a passée pour que je vous pose,
ah oui,
absolument, donc ce serait mieux de répondre à la question précédente, parce que là, c'est les citations de Rimbaud, des contes Illumination. La musique savante manque-t-elle à notre désir? Allez, les questions difficiles à la fin.
Quand j'étais beaucoup plus jeune, mais quand vous êtes très très jeune, vous ne savez pas ce que c'est, quand on allait dans un magasin, on avait, je ne vais pas citer deux marques qui étaient... qui était à Montparnasse et qui s'appelle la Fnac, on avait des rayons de disques classiques, mais à perte de vue. Et pour une version, c'est-à-dire si je voulais écouter la 5e symphonie de Beethoven, j'avais 17 versions différentes. Aujourd'hui, on a une seule version. Et 95% de mes élèves de piano n'écoutent que YouTube, c'est-à-dire du MP3. C'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte de la perdition de qualité qu'ils ont. Et ça, il y a une autre chose qui a un flux maintenant, c'est-à-dire que comme ils ont tout gratuitement, ils s'imaginent que la musique est gratuite. C'est-à-dire que les gens ne travaillent pas, etc. Que, je veux dire, qu'un concertiste, avant de jouer un concerto, c'est du boulot. Enfin, même un chanteur, quand il chante, il travaille avant.
Il y a une époque où la musique était en quelque sorte gratuite. Il n'y a pas de droit d'auteur, en tout cas.
Non, mais pas de droit d'auteur, on payait les gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup.
Mais c'est ce qu'on fait aujourd'hui.
Non, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'ils entendent tout gratuitement, ils seraient très heureux qu'on vienne jouer pour eux gratuitement. Il y a encore des gens dans cet esprit-là. Il y a une perversité de YouTube qui a changé le rapport que l'admiration qu'on avait pour les gens qui faisaient de la musique. Ça a changé un peu, ça a changé un peu.
Donc quoi, c'était mieux avant?
Non, c'est pas mieux, enfin, c'était mieux avant. Avant, on les payait. Vous savez pourquoi? Parce que vous connaissez la naissance des droits d'auteur. Le droit d'auteur, c'est un type, c'est un musicien qui passe devant un café et qui entend sa musique qui est jouée par un orchestre. Il se dit, il va voir le patron du café en lui disant, mais qu'on se fait-il que je ne gagne rien sur ça? Et ils se sont réunis à plusieurs, il y a eu toute une bataille, et on a créé la SACEM comme ça.
Oui, mais Urbain Reynaldo, je reviens à la poésie. Le principe d'un poète qui écrit, c'est qu'il a envie d'être lu, il a envie d'être partagé. Si on mettait une taxe à chaque fois que le texte était lu ou déclamé, la poésie ne circulerait plus.
Je ne parle pas forcément de la poésie, on parlait de la musique. Le rapport à la musique sacrée, enfin la musique, savante, a changé. C'est vrai que les valeurs ne sont plus les mêmes. Quoi. C'est-à-dire qu'avant, on idolâtrait Horowitz, enfin les grands virtuoses. Aujourd'hui, ce n'est plus les stars du tout.
Donc
c'est
le rapport à la musique a changé.
La musique a changé, oui.
Est-ce que le rapport à la poésie a changé?
La poésie, a toujours été, c'est autre chose. Ça a toujours été distribué gratuitement. Effectivement, on dit un poème gratuitement. C'est pas du tout
donc
le même débat.
Les poètes
n'ont
jamais été payés, c'est
jamais
ça
été, jamais été payés.
Cela dit, vous pouvez toujours envoyer vos dons à Radio Campus. Nous les recevrons avec plaisir. Hein.
Mais c'est vrai que la musique savante aujourd'hui, c'est compliqué.
Donc
c'est compliqué.
On retourne toujours à la même question. En fait, on désire toujours ceux qu'on n'a pas et on l'apprécie plus quand on ne l'a pas. Ok, j'ai compris.
Merci beaucoup Urbain Reynaldo d'être venu ce soir, d'avoir répondu aux questions difficiles de Diana ainsi que d'Isadora. Merci d'être notre invité ce soir. Vous restez bien sûr avec nous jusqu'à la fin de l'émission si vous souhaitez interagir et poser vos questions.
Le bateau ivre.
Le bateau ivre.
Le bateau ivre.
Le bateau ivre.
Un vendredi par mois, de 22h30 à minuit, sur Radio Campus Paris. Et à présent, nous partons en voyage. Et vous le savez, quand on part en voyage, on a toujours quelque part un bagage en soute. C'est l'heure de la chronique Mauvalise avec et en compagnie de Jeanne et de Louis.
Oui, effectivement, Alban, ce soir, pour cette nouvelle chronique, le Mauvalise, et puisque l'on est déjà en territoire de poésie, même si c'est en Outre-mer, Jeanne et moi allons vous proposer pendant quelques minutes d'explorer un mot, une expression, de devenir des conquistadors du langage, des aventuriers de la labiale, des archéologues de la glotte.
Et puisque les musiciens ont pris place à côté des sirènes, le mot d'aujourd'hui sera le contretemps.
Tout à fait, Jeanne, parce que contretemps, ce n'est pas seulement un mot, c'est bien plus que ça, c'est un terme musical qui désigne une syncope, c'est-à-dire l'action d'appuyer sur le temps faible d'une mesure et de passer plus ou moins légèrement sur le temps fort qui le suit.
Mais pas du tout. Arrête de nous jouer de la flûte. Et mal, en plus. Personne n'est dupe. C'est un copier-coller de Wikipédia qui sert juste à essayer d'impressionner nos invités qui, si j'en juge par les partitions en boulettes qu'ils sont en train de t'envoyer à travers le studio, ne le sont pas du tout.
Non, mais comment ça du Wikipédia, Sophie qui joint le geste à ma parole. Alors c'est quoi à ton avis le contretemps si c'est pas dire l'action d'appuyer sur le temps faible d'une mesure et de passer plus ou moins légèrement sur le temps fort d'après?
Le contretemps, c'est ce qui énerve, ce qui empêche, ce qui bloque. Le contretemps, c'est le contrôleur du métro qui te regarde avec un sourire sadique parce qu'il sait très bien que la station d'où tu viens n'a plus de machine valide. C'est le frigo qui tombe en panne et qui transforme ton appartement en iceberg post-réchauffement climatique alors que t'es parti pour le week-end. Le contretemps, c'est la cire que t'as mis dans tes oreilles pour ne pas entendre les sirènes et que tu retrouves sur le bout de ton petit doigt alors que tu te grattais juste le lobe. C'est ce qui te fait crever une roue sur une route de campagne. Le contretemps, c'est un chroniqueur pédant qui te parle de termes musicaux complexes sans avoir jamais fait de solfège alors que tu veux juste entendre parler de poésie. C'est ça le vrai contretemps. C'est celui qui te fait arrêter de vivre, qui te détourne. Le contretemps, c'est celui qui te le fait perdre.
Bah, dans ce cas-là, je hais le solfège et les contretemps.
Mais non, t'as encore rien compris. Au contraire, le contretemps, c'est fondamental. C'est la vie. C'est ce petit rien, d'abord agaçant, qui brise le rythme de la musique d'ascenseur, toujours la même, celle du quotidien, celle que tu connais par cœur, celle qui te fait marcher au pas, malgré toi.
Bah, finalement, tu vois qu'on y revient à la musique.
Mais c'est précisément contre cette musique. Quand j'ai dit que ça te faisait perdre ton temps, c'est du temps déjà perdu que le contretemps te donne une chance de retrouver. C'est l'inattendu qui débarque dans ta vie alors que tu croyais justement ne pouvoir être surpris par rien. C'est l'anodin qui te rappelle qu'un autre monde existe, une autre musique, une autre vie.
C'est un petit peu comme un petit grain de plage dans la mécanique du RER, finalement.
Exactement. C'est ce qui renouvelle ta propre vision du banal, en amenant par une fenêtre que tu croyais fermée, la possibilité de l'extraordinaire. Alors que tu rouilles comme un automate à faire les 3-8, en jonglant entre les obligations et les frustrations d'un monde moderne, que tout le monde emmerde, mais pas trop fort, le contretemps te dit...
Attends, je vais faire le contretemps. Alors il dirait... Stop. Faisons un pas de côté. Qu'est-ce que tu vois? Un contrôleur? Un frigo et de la flotte? Une roue crevée? Moi, je vais te dire ce que je vois. Le contrôleur, c'est un type qui est malheureux comme toi et qui, s'il s'écoutait, enlèverait cette terrible veste verdâtre.
C'est vrai qu'elles sont laides.
Ouais, cette terrible veste verdâtre et partirait vivre son rêve d'éleveur de poney en Mongolie, qu'il n'a jamais cru possible, mais auquel quelqu'un, en lui, quelque part, croit encore. De la flotte partout sur ton parquet? Mais pas du tout, mon gars. C'est un océan polaire que tu as devant toi. Et t'es un marin qui doit éponger tout le pont avant que
les planches du rafio pourrissent. Et que tu termines en pâté pour phoque. Une roue crevée? Assieds-toi et regarde autour. T'as été séduit par les sirènes? C'est l'occasion d'un bon plongeon.
Non mais je vois bien ce que tu veux dire, mais c'est un petit peu ce que je disais.
Comment
début,
ça? Ne recommence pas, Louis. Ne recommence pas.
Non mais le contretemps que tu me décris maintenant là, c'est exactement comme en musique. Quand t'es dans un temps un petit peu faible, ce temps on vit moins fort, le contretemps, c'est ce qui vient appuyer sur la partition de ta petite personne et qui te fait passer sur un temps... autre, plus fort, plus grand. C'est la proposition d'un rythme alternatif.
C'est la possibilité du Nil. La proposition du poème. Jouer une mélodie intérieure qui bouge tout un monde pour peu qu'on prenne seulement la peine de l'écouter.
Bien, merci les amis pour ces mots valises, ce temps et ce contre-temps que vous nous proposez. Alors je ne sais pas si je prends le temps ou le contre-temps, je ne sais pas s'il le prend d'ailleurs le temps, mais on va le lui laisser. Je vous propose d'à présent entendre Yves, qui est également à notre table ce soir. Yves qui va nous déclamer un poème de Xavier Gral, extrait de Solo, si je ne fais pas d'erreur, Yves.
Non, c'est bien ça, oui. Alors c'est un poème qui peut faire à peu près 45 minutes. Hein.
Bah, c'est parfait, il nous reste 45 minutes d'émission. Donc peut-être un extrait, en tout cas, qui pourrait amener d'autres personnes, par ailleurs, en t'écoutant, à le lire, à découvrir cet
auteur.
Voilà,
bon, il est assez difficile à trouver, mais je crois qu'il a été réédité aux éditions Terre de Brume. Et c'est un poète breton, moi, qui a vécu après dans les années 70-80, et qui a eu une importance assez forte, qui a été très très marquée par, comme beaucoup, mais par Rimbaud, par la Beat Generation aussi. Il aura rendu hommage, et d'ailleurs on voit dans son rythme qu'il a été très très marqué par le jazz, il a été très marqué par sa Bretagne, par son éducation notamment, par tout un tas de soutanes qui ne pifferaient plus, et à la fois avec une sorte de retour au christianisme de son enfance, mais avec un rapport très très personnel justement à ça. Et...
C'est donc Xavier Gral, un extrait de Solo.
Bon, je m'arrête lorsque tu en auras marre, Alban.
Ça risque de durer longtemps, mais je me forcerai à t'arrêter.
Seigneur, me voici, c'est moi. Je viens de Petite-Bretagne. Mon havresac est lourd de rimes, de chagrins et de larmes. J'ai marché jusqu'à votre grand pays. Ce fut, ma foi, un long voyage. Trouvert, j'ai marché par les villes et les bourgades. François Villon dormait dans une auberge à Montfaucon. Dans les Ardennes, des corbeaux et des hêtres. Rimbaud interpellait les écluses, les canaux et les fleuves. Verlaine pleurait comme une veuve dans un bistrot de Lorraine. Seigneur, me voici, c'est moi, de Bretagne suis. Ma maison est à Botsulan. Mes enfants, mon épouse y réside. Mon chien, mes deux cyprès y ont demeurance. M'accorderez-vous leur recouvrance ? Seigneur, mettez vos doigts dans mes poumons pourris. J'ai froid, je suis exténué. Oh, mon corps blanc tout exvoté. J'ai marché. Les grands chemins chantaient dans les chapelles. Les saints dansaient dans les prairies. Parmi les chênes erraient les calvaires. Oh, les pardons populaires. Oh, ma patrie. J'ai marché sur des terres bleues et pèlerines. J'ai croisé les albatros et les grives. Mais je ne saurais dire jusqu'aux cieux l'exaltation des oiseaux. Tant mes mots dérivent, et tant je suis malheureux. Seigneur, me voici, c'est moi. Je viens à vous, malade et nu. J'ai fermé tout livre et tout poème, afin que ne surgisse de mon esprit que cela seulement qui est ma pensée, humble et sans apprêt, ainsi que la source primitive avant l'abondance des pluies et le luxe des fleurs. Seigneur, me voici devant votre face. Chanteur des manoirs et des haies, que vous apporterai-je en mes mains lasses, sinon les traces et les allées, l'âtre féal et le bruit des marées, les temps passés comme l'onde sous les saules, et je ne sais plus l'âge ni l'usage du corps, je ne sais plus que le dit et la complainte, telle la poésie. Mon âme serait-elle patiente au bout des galantes années ? Seigneur, me voici, c'est moi. De votre terre, j'ai tout aimé, les mers et les saisons, et les hommes étranges, meilleurs que leurs idées. Et comme la haine est difficile, les amants marchent dans la ville. Souvenez-vous de la beauté humaine dans les siècles et les cités, mais comme la peine est prochaine. Seigneur, me voici, c'est moi, j'arrive de lointaine Bretagne, ô ma barque belle parmi les bleuets et les dauphins. Les brumes y sont plus roses que les toits de l'Espagne. Je viens d'un pays de marins. Les rêves sur les vagues sont des jeunes rameurs qui vont aux îles bienheureuses de la grande mer du Nord. Je viens d'un pays musicien. Liesse, colère et remords amènent les vents hurleurs sur le clavier des ports. Je viens d'un pays chrétien. Ma Galilée des lacs et des ajoncs enchante les tourterelles dans les vallons d'avril. Me voici, Seigneur, devant votre face. Sainte et adorable, mendiant un coin de paradis parmi les poètes de vos extras. Si maigre, si nu, je prendrai si peu de place que cette grâce, je vous supplie de l'accorder au pauvre air que je suis. Ayez pitié, Seigneur, des bardes et des bohémiennes.
Merci beaucoup Yves. C'était un magnifique extrait de Solo de Xavier Graal, que donc on peut difficilement trouver si je...
Aux éditions Terre de Brume, il est encore trouvable. Et puis là, il reste une bonne quarantaine de pages encore.
Donc encore beaucoup à découvrir. Merci encore Yves d'être venu ce soir.
Le bateau ivre.
Le bateau ivre.
Le bateau ivre.
Et tout de suite, je vous propose de retrouver une autre interview, mais une interview cette fois qui s'est déroulée plutôt une rencontre d'un type particulier. Il s'appelle Marc-Alexandre Ohobambé, dit Capitaine Alexandre. C'est un poète slammer, lauréat du prix Paul Verlaine de l'Académie française en 2015. Nous l'avons rencontré dans une résidence d'artistes, les Récollets, située dans le 10e arrondissement de Paris, à côté de la gare de l'Est. C'était par un dimanche matin pluvieux, et c'est une interview de Sophie Maillère.
Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté mon invitation. Vous déclamez vos textes sur scène, un peu partout en France et à l'étranger, avec ou sans votre collectif On a slamé sur la Lune. Vous étiez tout récemment en Afrique et vous revenez juste du Liban. Alors, mes premières questions, Marc-Alexandre, vont porter sur le nom de scène que vous vous êtes attribué. Capitaine Alexandre, de quel vaisseau ou navire êtes-vous donc le capitaine et quelle odyssée avez-vous entrepris d'accomplir ?
Je suis le capitaine de mon âme d'abord. Et d'ailleurs, c'est des vers de Walt Whitman que Mandela a rendu célèbre, parce que Mandela, pendant ses 27 années, 190 jours passés en prison, lisait de la poésie parfois. Et dans ses mémoires, il a raconté que la poésie l'avait aidé à résister, à tenir debout. Ce qui m'a amené plus tard à écrire et puis à dire aussi, à transmettre à des jeunes, à des élèves, que la poésie, c'était d'abord la respiration de la femme et de l'homme debout. Et les vers de Whitman disent ça: « Je suis le maître de mon destin, le capitaine de mon âme. » Donc le premier navire, c'est celui-là. Le tout premier, c'est celui-là. Ensuite, il y a un navire ivre et libre. Il y a un hommage à Rimbaud. Et puis il y a le fait que finalement, quand on part comme ça en poésie, on s'embarque sans trop savoir où on va, mais on est heureux d'y aller toujours. Et moi, j'aime ça, cette idée d'aller voir ailleurs si j'y suis, et de réaliser que j'y suis souvent, pour ne pas dire tout le temps. Et c'est pour ça que je pars aussi, et à bord de ce navire poétique qui me permet de traverser tous les imaginaires du monde, et puis de m'ancrer aussi, et m'ancrer M'ENCR. Dans tous les imaginaires du monde. Et Capitaine Alexandre, pour rendre hommage aussi à René Char, donc il y a les vers de Whitman, le capitaine de mon âme, c'est une manière de me rappeler à moi-même, à une promesse faite à l'adolescent que j'étais, à Douala, à 17 ans, quand j'ai lu ces vers, je me suis promis d'essayer, quoi qu'il arrive, de rester le maître de mon destin et le capitaine de mon âme. Donc quand j'ai choisi un nom de scène, c'était assez naturel pour moi de choisir un nom de scène qui m'obligeait et qui me rappelait à cette promesse faite à l'adolescent, à l'enfant que j'avais été. Et puis c'est aussi un hommage à René Char, dont c'était le nom de guerre pendant la Résistance. René Char, qui avec Aimé Césaire est un poète fondamental pour moi, un de mes professeurs d'espérance. René Char qui m'a tiré des larmes quand j'avais 16 ans, et que de la bibliothèque à cajou de ma mère, j'avais tiré un livre ouvert à une page comme ça, un peu au hasard, mais le hasard n'existe pas. J'avais rendez-vous avec ces mots, et donc il faut imaginer que j'ai 16 ans, je rêve de devenir écrivain, j'ai pas de plan B dans la vie, je ne veux pas en avoir, et j'ouvre un texte au hasard et je tombe sur ces mots: tu es pressé d'écrire comme si tu étais en retard sur la vie, s'il en est ainsi, fais cortège à tes sources. Hâte-toi de transmettre ta part de merveilleux, de rébellion, de bienfaisance. Et je pleure, en fait. Voilà. Et je me dis que ce texte-là, ces mots-là, René Char avait quelque chose à me dire de moi. Et donc, Capitaine Alexandre aussi, pour rendre hommage à René Char et donc au vers de Whitman, la poésie dans toute sa simplicité et sa profondeur. Merveilleux film Le Cercle des Poètes Disparus, oh, Capitaine, mon capitaine. Oui, il y a beaucoup de choses derrière Capitaine Alexandre. Ouais.
J'aimerais bien que vous reveniez quelques instants sur votre parcours personnel, au sens où vous êtes né à Douala, au Cameroun, dans une famille versée dans les arts et les lettres. Quel rôle votre pays natal a-t-il joué dans le développement de votre sensibilité poétique ?
C'est la famille d'abord. C'est le Cameroun, pour moi, c'est ma famille d'abord. C'est ma mère, mon père. C'est ma mère, prof de lettres et de philosophie, qui animait un cercle de poésie à la maison. Cercle de poésie dans lequel j'ai baigné. J'avais 7-8 ans. Enfin, voilà, j'entendais des gens qui n'étaient pas des comédiens, qui venaient déclamer des textes, qui venaient chanter des textes à la maison, les scander, qui étaient profs comme ma mère, qui étaient chefs d'entreprise, qui étaient au chômage, qui n'étaient pas des artistes au sens où on pourrait l'entendre et qui habitaient la poésie. Ce qui fait que je n'ai jamais pu dissocier poésie écrite de poésie incarnée, parce que j'ai toujours entendu la poésie vivre dans le corps, dans la voix de celui ou celle qui la disait, enfant. Et je parle de textes classiques. J'entendais déclamer des vers de Sénèque, j'entendais déclamer des vers d'Éluard, de Franck Etienne, qui est un poète haïtien merveilleux que je considère comme Dieu. Personnellement, mais voilà, donc j'ai toujours entendu ces airs, des textes aussi hermétiques, aussi classiques que ceux-là, portés de manière vibrante. Donc avant même que, à 16 ans, je crée un groupe de rap à Douala et que je commence à faire de la scène avec des musiciens, avant même que j'embrasse le slam, qui est une indiscipline artistique dans laquelle je me sens plutôt à ma place.
Et, indiscipline.
Parce que tout est à inventer. Il n'y a pas d'archétype. Autant dans le rap, il y a des structures. Il y a une structure, couplet, refrain. Comme dans la chanson, il faut de la musique, il faut un DJ. Comme dans le théâtre, il y a des codes. Dans le slam, tout est à inventer.
Tout le monde n'est pas d'accord avec cela. Beaucoup de puristes estiment qu'on lit la poésie et que l'incarnation, c'est un peu la chute dans la chair. Ça va gâcher l'essence même du verbe. Or, quand vous déclamez, il y a un beat, c'est-à-dire une pulsation, un rythme qui vous est vraiment personnel et que je qualifierais à la fois d'organique et de musical. J'aimerais que vous reveniez sur le rôle que la musique a joué dans votre rapport à l'écriture poétique et à vos performances orales.
Alors, la musique, je ne sais pas si la première musique est celle des mots, est celle de mes mots. D'ailleurs, je dis souvent en plaisantant à moitié aux élèves que je suis mosicien. J'écris des textes du bout des lèvres. J'ai toujours écrit des textes du bout des lèvres. Alors, effectivement, j'ai baigné dans le rap. J'ai eu un groupe de rap. J'ai toujours entendu la poésie oralisée, portée comme ça de manière vibrante. Et puis, il y a un engagement aussi à porter sa parole, à l'incarner. Et cet engagement-là est aussi celui de ne laisser personne à côté de la littérature. Donc, les puristes, c'est bien, mais ils sont dans un entre-soi, en fait. Il y a plein de gens sur cette terre qui ne savent pas lire, ne serait-ce que ça. Donc on considère qu'ils n'ont rien à faire avec la poésie et que la poésie devrait seulement être écrite et dans des livres enfermés. Après, chacun son truc. Moi, je suis plutôt pour le partage, en fait, et avec aussi des gens qui n'iront jamais dans une bibliothèque, qui ne feront jamais l'effort de pousser la porte d'une librairie. Et dans un moment comme ça, spectaculaire, qui peuvent être accrochés à un poème. Parce que des mots vont résonner en eux, parce que des images vont faire sens et ils vont se dire mais ça me concerne aussi, en fait. Voilà, et donc après chacun son truc. Moi, je suis pas du tout un puriste et je suis assez fier de ne pas l'être, mais je peux comprendre et entendre que certains préfèrent leur entre-soi confortable. Nous, on aime la vie et les gens et on aime aller vers les gens avec la poésie.
Vous êtes dans la lignée des troubadours, la tradition orale, voilà, qui se transmet oralement aussi.
Et sous toutes les latitudes, c'est ça qui est merveilleux. J'étais en tournée au Brésil, j'entendais de l'embolada. L'embolada, c'est une manière de porter sa poésie et de la chanter sur les places de village, comme les troubadours pouvaient le faire, comme sur les places de village en Afrique, les griots, comme dans l'agora chez les Grecs. Des femmes et des hommes, des enfants, se retrouvaient pour partager une parole habitée. Et après, nous, on ne fait que continuer ça. Quelque chose qui a déjà et toujours existé, et sous toutes les latitudes, c'est important de le dire.
Au sein d'un collectif dont vous êtes le directeur artistique, qui s'appelle On a slamé sur la lune, qui rassemble écrivains et musiciens de tous horizons. Alors, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de ce collectif. Et pour commencer, pourquoi ce nom ? Pourquoi la lune ? Justement, vous dites habiter la Terre, pourquoi aller sur la lune ? Qui trouvez-vous sur la lune ?
Alors, On a slamé sur la lune est né un soir d'ébriété intellectuelle à Lille il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Et on s'était posé la question comme ça après quelques verres de rhum. On s'est demandé ce qu'on pourrait faire de plus fou ensemble avec d'autres camarades de poésie et d'espérance. Et on est rentré avec cette question en suspens. Et à 5 heures du mat, je me souviens d'avoir eu cette fulgurance-là, aller slammer sur la lune. Donc j'ai appelé tout le monde, je les ai réveillés. Ils m'ont détesté, mais finalement, ça fait 10 ans qu'on se déteste amoureusement puisqu'on continue à porter ce projet collectivement. Et on a décidé, oui, d'aller slammer sur la lune. Et c'était ça. Et comme on a la poésie pour nous et que le poète est celui qui se souvient du futur, on a slammé sur la lune, déjà, en fait. Et c'est ça le nom du collectif. Et ensuite, on a rempli tout ça de sens. Au départ, c'était une fantaisie comme ça de poète, d'artiste. Trouver un nom qui claque, qu'on retienne facilement, et puis qui d'une certaine manière, nous rassemblait aussi. J'ai un texte, d'ailleurs, qui nous avait réunis, qui disait « La lune est le soleil des poètes ». Et de ce texte-là, on a fait quelque chose, et on fait quelque chose encore avec le collectif. Et ensuite, on s'est dit aussi que c'était pas mal, parfois, d'avoir de la hauteur. Et puis, je pense qu'il y a aussi... un clin d'œil à Prévert à l'Opéra de la Lune. Il y a quelque chose comme ça, je pense inconscient ou conscient, mais il y a certainement un clin d'œil aussi, parce que je me considère comme passeur de poésie et parfois ça va même au-delà de ce qui est conscient chez moi, de passer la poésie.
Une dernière question. Vous intervenez régulièrement auprès d'un jeune public dans les écoles pour leur dire quoi, pour leur transmettre quoi? Comment liez-vous la poésie et ce que vous appelez votre engagement citoyen ?
Alors, j'interviens auprès de jeunes, oui, depuis très longtemps, mais je pense que c'est aussi une manière de continuer ma mère que j'ai perdue. Chaque fois que je pousse la porte d'une salle de classe en France ou dans le monde, je pense à ma mère qui avait des élèves qui viennent encore me voir aujourd'hui, alors que ça fait plus de 20 ans que j'ai perdu ma mère. J'ai encore ces élèves, quand je vais au Cameroun, qui viennent me voir. « Ah, vous êtes le fils de Madame Obambé, mais cette femme était incroyable, c'est grâce à elle que j'ai réussi ma vie. » J'ai encore des témoignages comme ça aujourd'hui, quand j'arrive à Douala et qu'on m'appelle par mon nom de famille et que quelqu'un dans la salle, dans le public, vient me dire « Ah, mais vous êtes le fils de Madame Obambé. » Enfin voilà, donc je continue ma mère en poussant la porte de salle de classe qui veulent bien m'accueillir. Et ce que je vais dire aux jeunes, tiens, en très peu de mots finalement, c'est osez vos causes. Voilà, osez vos causes primordiales, personne ne le fera pour vous. Moi, j'avais 16 ans, je vivais à Douala, je rêvais de devenir écrivain, j'ai osé ma cause. Et parfois, cette cause peut aussi être de la prose. Donc, osez vos causes, lâchez prise, lâchez prose, osez vos causes. Et l'écriture, c'est aussi un moyen de prendre de ses nouvelles, de se demander où on en est, de ses rêves, de ses espoirs, de son désespoir, de sa révolte. Peu importe qu'on veuille devenir écrivain, poète ou artiste, ce que je viens leur dire, c'est ça, c'est que vous pouvez trouver dans l'écriture parfois un refuge, parfois un lieu comme ça, une chambre à vous, comme dirait une poétesse que nous avons en commun. Mmh. Et dans cette chambre-là, vous questionnez sur ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Et parce que vous êtes questionné dessus, parfois prendre des décisions qui vous aident en tout cas à transcender les difficultés en fait. Voilà ce que je vais dire à des jeunes. Là, je reviens du Liban ayant passé une semaine incroyablement forte avec des jeunes gens pétris de poésie et qui ont offert leur vers au jour d'après, qui ont écrit des textes. Je joue avec eux, je leur donne des clés. Mais ce sont leurs mots, c'est leur poésie. Et je suis revenu avec des phrases d'enfants du Levant qui sont juste magnifiques. J'écris pour me réconcilier. Voilà, c'est d'une simplicité, d'une profondeur absolue. J'écris pour me réconcilier. Parfois, il faut attendre des années quand on est écrivain pour arriver à une phrase comme celle-là. De cette simplicité-là, de ces phrases que j'appelle des phrases étincelles, en fait. Et là, c'est une gamine de première qui m'a offert ça, premier atelier d'écriture de sa vie. J'écris pour me réconcilier. La poésie est là et elle est belle.
Merci beaucoup, Marc-Alexandre Obambé. Nous vous écoutons à présent dire un extrait slamé d'un texte de votre choix qui sera...
Nous sommes des ingouvernables. Porteurs de poèmes et de rêves fragiles, nous sommes des ingouvernables, n'appartenant à aucune classe, aucune race, aucune caste, si ce n'est celle des femmes et des hommes de plein vent à plein temps. Nous sommes des ingouvernables rallumeurs de flammes vitales pour les âmes. Nous sommes des ingouvernables compteurs de foudre, voleurs de feu. Je le répète, rallumeurs de flammes vitales pour les âmes. Et je suis un poète tambour. J'abrite et j'habite la résonance du monde, ma plume transporte l'écho humain, les mots de l'âme, les mots de l'homme, l'écume des jours, l'éclat des nuits derrière l'écran, accroc à cran, j'écris avec le cœur. Écrin d'amour toujours. J'écris de la poésie comme d'autres plantes des arbres. J'écris de la poésie comme d'autres temps de l'impossible. J'écris de la poésie comme d'autres chants de l'impossible. J'écris de la poésie comme d'autres vivent, afin que l'humain rallume enfin la lumière de ce siècle obscur. J'écris de la poésie.
C'était Marc-Alexandre Aubambé. Merci infiniment et à bientôt.
Merci beaucoup pour votre bel accueil et votre invitation. Et à bientôt, oui, avec grand plaisir.
Et merci Sophie, ajoutons juste encore que le capitaine Alexandre a publié 3 recueils de poésie dont Le Chant des Possibles aux éditions La Cheminante, couronné du prix Paul Verlaine de l'Académie française en 2015, et De Terre, de Mer, d'Amour et de Feu, publié aux éditions Mémoire d'Encrier, qui a été adapté en opéra, slam et baroque.
Le bateau ivre.
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 Et autour de la table, à bord de notre bateau ivre, toujours Diana, Jeanne, Sophie, Louis, Simon, mais aussi eh bien, Urbain, qui est toujours en notre compagnie. Alors on a abordé de nombreux textes de poésie, tous différents, avec différents thèmes jusqu'ici. Quels sont les thèmes qui vous motivent le plus dans le fond? C'est la question que j'aimerais vous poser, les amis. Alors est-ce que ce sont des textes, les textes d'amour, les textes engagés, les textes mélancoliques? Est-ce qu'il y en a qui vous parlent plus que d'autres?
Oui.
Merci Louis de prendre la balle au bon, je me commence à me sentir un peu seul. Quels sont les textes qui te marquent le plus, Louis?
Pas du tout, il me semble qu'un texte d'amour est nécessairement un texte engagé, ou en tout cas ce serait compliqué de faire différemment.
Que les choses peuvent se combiner donc.
Que les choses peuvent se combiner, non non, tout simplement on peut effectivement partitionner les thèmes lyriques ou avant-gardistes, ou enfin on peut trouver différentes catégories. Il me semble que le texte engagé, c'est celui qui ouvre le poème à deux portes, celui du poète qui écrit et celui qui écoute, tout simplement. Et que le bon poème, c'est celui qui fait passer de l'un à l'autre, qui ne s'arrête pas au milieu du poète qui écrit ou de celui qui écoute.
Et alors, est-ce qu'il y a des textes que vous apprenez plus facilement que d'autres? C'est vrai que la poésie, quand on se met à la déclamer, il faut la connaître, forcément, il faut l'avoir apprise avant. Est-ce qu'il y a des textes qui sont plus faciles pour vous à apprendre que d'autres? Est-ce que ça dépend des
thèmes? Je vais répondre à cette question, mais je vais juste revenir sur la précédente question, mais très brièvement en disant
alors,
que...
Alors, Emily Dickinson disait...
Pas du tout, absolument pas. Et d'ailleurs, Emily Dickinson a dit énormément de choses absolument sublimes sur l'amour, de façon engagée sur les femmes, sur la gloire, sur la guerre. Elle a dit, elle a couvert énormément de sujets...
Et nous en sommes convaincus, Sophie.
...qu'elle entrelace dans ses poèmes. Et non, ce que je voulais dire, c'est que ce qui m'intéresse quand je choisis un poème et quand qui m'attire, hein, un poème qui m'attire, c'est un poème qui tout d'un coup va présenter les choses, présenter une peinture des choses sous une image complètement inattendue qui va me couper le souffle. Je crois que c'est vraiment cette association des images. On parlait tout à l'heure de ce qui est déplacé, de ce qui surprend, de ce qui est inattendu. C'est exactement ça. Tout d'un coup, je pense au bateau ivre de Rimbaud, par exemple, les yeux blonds des oiseaux, par exemple. Les
Pourquoi
yeux
pas.
Blonds.
Une image.
Voilà.
Donc c'est des images qui te marquent, Sophie.
Voilà. Et quel que soit le sujet, ensuite. C'est ça qui va attirer mon attention. Et la deuxième question donc, que tu posais...
Rapidement. Et ma deuxième question, qui était, est-ce qu'il y a des textes qui sont plus faciles à apprendre que d'autres? Mais ça fait un peu écho à ma
pour
première
moi,
question.
Oui, par exemple, j'ai appris récemment un texte de Mallarmé, un texte d'Apollinaire. J'ai plus de mal à apprendre Mallarmé et Apollinaire que Rimbaud ou Baudelaire. Ça doit être une question de rythme et de temps et contre-temps. Pour moi... Apollinaire, c'est très personnel je pense, mais Mallarmé écrivent de telle sorte que pour moi ce sont des... Ils vont à contre-temps, en tout cas, de mon rythme cardiaque.
Urbain, une petite réaction par rapport à ce qui vient d'être dit.
Complètement. Je pense que la rencontre avec un texte, c'est comme une rencontre avec un être humain, c'est-à-dire une amitié amoureuse, en fait. Il y a des gens qu'on rencontre et puis avec lesquels on s'entend tout de suite, on a l'impression de se connaître depuis 10 ans, et puis le texte est pareil. Je n'analyse pas en me disant ce texte-là, c'est un texte engagé, je m'en fiche de ça. Je veux dire que quand je lis un texte, il me touche. Et eh ben, ça marche tout de suite. Alors, la mise en musique, c'est autre chose.
Un inattendu qu'on attendait.
Très bien. Je vous propose à présent, les amis, de faire un petit point sur la météo, mais pas n'importe quelle météo. Non, une météo poétique, évidemment, en compagnie de Simon et Jeanne. Alors, Simon, ce mois-ci, il fera gris, si j'ai bien compris.
Oui, tout à fait. Tout à fait, Alban. Il fera gris ce mois-ci. Des paupières au manteau, des nuages au carreau, les oiseaux, les chiens, les gens, les rues. Tout sera gris, mais s'il fera gris partout, c'est pas seulement pour une raison d'intensité lumineuse. C'est aussi et surtout parce qu'il fera gris en toi. Oui, tu reprendras dès ce week-end ton habitude habile d'arrondir les angles. D'ailleurs, tu commences déjà à parler de l'hiver avec désinvolture. Tu mettras du gris dans la description de tes journées, dans les tasses de tes cafés. Tu vas encore causer de la fin d'une saison qui en amènerait une autre, regarder avec indifférence la chute des feuilles, la descente des températures, le raccourcissement des jours. Ni blanc, ni noir, ni coloré, le gris se perçoit d'abord comme un manque. C'est l'absence d'excès, l'excès d'absence. Parce qu'encore une fois, cet hiver, tu nuanceras tes rêves. Tu camoufleras ta noirceur, tu lâcheras du... Ça pourrait être pire à tout bout de champ. Et ce qui pourrait être pire, c'est de t'entendre après que la fermeture éclair de ton sac se soit cassée, après que ton portefeuille se soit échappé, après que ta carte bleue se soit faite avaler par un distributeur, de t'entendre dire la plus horrible des phrases, ta réponse à tout, ton mot de la fin. C'est comme ça. Arrête ! On n'en peut plus de tes mots gris, là. De ce ton gris, de cette vie grise, de tes nuances, de tes étalages, de tes errances, de tes états d'âme, ta passion que tu négliges, ton amour que tu déguises. Ta grisaille, elle nous pompe l'air. On n'en veut pas de ton hiver intérieur. Sans angoisse, sans chaleur. Ton hiver gris, c'est de la merde. Va te faire foutre avec ton gris. Dégage ! Énerve-toi, chiale, gueule, fuis, cours, je m'en fous, m'écoute pas, je sais pas. Merde, mais fais quelque chose. Arrête de rester là.
Oui. Merci Simon.
Non, mais... Jeanne, vous pouvez pas laisser dire ça.
Sur
quand même.
Sur tes mots, comme sur ceux d'une grande partie de la France, il fait froid, il fait gris, il fait une sorte de mélange que l'on ne peut pas s'approprier, duquel on a envie de s'écarter, mais surtout auquel on est contraint, ou contre deux ou trois instants doux et délicats. Ton climat m'en dit long, ton manteau m'en dit la chaleur, l'envie de verre de vin qui te donneront l'air de vaincre. L'envie de corps ou de rimes couchées sur du papier, d'idées écrites et mises en mots qui donnent envie, à contrario, de se mouvoir et de songer. À chacun sa frilosité, à chacun son climat. À chacun sa façon d'être emplie de maladresse et de naïveté, cela dit en passant, c'est maladif comme c'est joli, et à chacun son accalmie après l'orage. Celle-là même qu'on attend aujourd'hui, en se forçant, en s'efforçant, à apprécier les variations atmosphériques et climatiques. Souvent, ces derniers matins, pendant un instant, tu croises des embruns empreints de poésie. L'opportunité de saisir avec précision l'anticyclone qui sommeille autour de ton lit. Difficile de passer outre ces conditions poétiques quand on en dépend. Au gré des mouvements du bateau de l'ivresse, on naviguera, Simon et vous autres, sereins et sous, en embarquant à bord d'un lundi et d'un mardi capricieux, d'un mercredi surprenant, d'une fin de semaine qui aura l'air rouleuse et qui donnera envie de prendre le large. Aujourd'hui, la vie bat plus fort. Ressenti, des possibilités de plus grand.
Et ressentant des possibilités de plus gris.
Merci Jeanne et Simon pour ce petit point sur la météo qui est gris, mais le gris visiblement on peut le voir de différentes couleurs. Et merci encore à vous deux. Il y a une personne que nous n'avons pas encore entendue ce soir et pour cause, elle n'est pas présente physiquement avec nous, c'est Isadora, mais Isadora est tout de même présente avec nous par les ondes et elle a choisi pour nous un poème ce soir.
Bonsoir, je vais vous dire un poème de Verlaine intitulé « Art poétique ». De la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair, plus vague et plus soluble dans l'air, sans rien en lui qui pèse ou qui pose. Il faut aussi que tu n'ailles point choisir tes mots sans quelque méprise, rien de plus cher que la chanson grise où l'indécis au précis se joint. C'est des beaux yeux derrière des voiles, c'est le grand jour tremblant de midi, c'est par un ciel d'automne attiédi le bleu fouillis des claires étoiles. Car nous voulons la nuance encore, pas la couleur, rien que la nuance. Oh, la nuance seule fiance, le rêve au rêve et la flûte au corps. Fuis du plus loin la pointe assassine, l'esprit cruel et le rire impur, qui font pleurer les yeux de l'azur et tout cet ail de basse cuisine. Prends l'éloquence et tords-lui son cou. Tu feras bien, en train d'énergie, de rendre un peu la rime assagie. Si l'on y veille, elle ira jusqu'où. Oh, qui dira les torts de la rime ? Quel enfant sourd ou quel nègre fou nous a forgé ce bijou d'un sou qui sonne creux et faux sous la lime ? De la musique encore et toujours, que ton vers soit la chose envolée, qu'on sent qui fuit d'une âme en allée vers d'autres cieux à d'autres amours. Que ton vers soit la bonne aventure éparse au vent crispé du matin qui va fleurant la menthe et le thym, et tout le reste est littérature.
C'était Isadora. Merci Isadora d'avoir contribué par les ondes à cette émission Poésie ce soir. Et dans les médias, on revient en studio, toujours avec Simon qui est en notre compagnie. C'est l'heure du slam de Simon.
Merci. J'ai une voix plutôt dégueulasse et des textes dans le tiroir. Je suis toujours déçu, comme après un coup d'un soir. J'aimerais pénétrer dans la vie, mais j'arrive pas à bander. Quand les problèmes abondent, j'ai envie d'abandonner. Ah, il fallait bien une phrase pour commencer, tu sais comment c'est, les idées noires sont idéales. La nouvelle était imprévue, un nouvel été s'arrête, et pourtant j'étais sage, mais c'était sale au fond de ma tête. Et en fait c'était ça, je suis resté assis là, on s'est réparti les taches de sang sur les trottoirs. Pour regretter ces tentatives, il n'est jamais trop tard. Mon ironie rame et mes métaphores ne prennent pas. Mes doigts malhabiles tracent des mots et des lignes entre mes songes et le réel. L'espoir s'esquive. J'entre dans le nouveau monde avec les souvenirs de l'ancien. Je vois les souvenirs de mes souvenirs, mes goûts des vies. Je me sens bien, j'arrondis les angles. J'assagis mon âme en retour. Mon esprit est modulable. Je suis carré quand tu me tournes autour. Au point de départ, les départs pour toucher le sol. Ils démarrent comme une banderole, comme ma bande rôde. Et sur les trottoirs, les mots vides occupent les désespérés. On se raconte nos quotidiens, mais on n'écoute que nos pensées. On marche côte à côte comme des gosses qu'on escorte. On porte en nous la peur que demain devienne aujourd'hui. Et je m'immisce dans tes nuits. Je n'ai la dérive sans nuit. Je vais me balader dans la ville d'à côté pour faire quoi, à ton avis? Je vais ramener les amis, des amis, des amis de mes amis. On va salir notre égoïsme du lundi au samedi. Et je rétablis mes essais pour pas être perdu. Je reste assis habillé pour pas tomber des nues. Je me souviens plus, mais je fais confiance à mes incertitudes. Les désertances et je suis en transe, de toute façon, il n'y a pas de futur. L'air s'est refroidi, donc j'ai repris ma plume. Je repense aux ennuis, à toutes les nuits où l'espoir se consume et la fuite se consomme. Tu connais la suite, t'as tellement peur de perdre au change que t'attends qu'elle te quitte. Stylo dans la main, fumée dans les yeux. T'es tellement peureux que t'es peu heureux. Attends pas des amis, t'es la vraie relève quand t'as un goût de 8-6 sur les prémolaires. Perdu dans mes phrases, perdu dans mes faces, tu t'esquives. Tu réalises à quel point se réalise et est difficile. Je réanime la flamme que ton âme avait perdue d'avance. Je m'évaderai comme le tolard qui joue sa carte chance. Et j'ai la voix qui tremble quand je rappe devant des potes. T'as peur de prendre un plan, donc t'attends devant la porte. Plus travailleur chaque année, tu connais bien la procédure. Mais quand tu cumules les projets, être procédure, alors arrête. De m'écouter, de méditer, de médire et de résister. T'es pas encore à la hauteur que t'as le vertige, tu restes figé. Alors prends du recul, réfléchis, mets-toi-y.
C'était le slam de Simon. Un grand merci, Simon, d'être venu nous déclamer ces quelques mots ce soir.
Le bateau ivre.
Le bateau ivre.
Le bateau ivre.
Le bateau ivre.
Un vendredi par mois, de 22h30 à minuit, sur Radio Campus Paris. Et je vous propose à présent, alors que ça discute sur le slam de Simon, des réactions peut-être, Sophie, par rapport à ce que vient de déclamer Simon. Des commentaires sur la fin de son texte.
Vas-y, assume, assume.
Moi, Simon, je pense que tu nous couvres quelque chose.
Ouais, c'est ouais. Vrai que j'ai le teint, je pense que j'ai un teint...
Un gris.
Non, c'est la météo qui veut ça, c'est la météo poésie. Non, il y avait une interrogation sur la fin, c'était « vas-y, y va ».
Mets-toi-y, mets-y-toi.
On n'était pas d'accord.
Voilà. Ouais. Mais c'est une licence poétique.
Acceptée. Merci beaucoup.
Très bien. Alors, je vous propose de partir à présent en direction du Club des Poètes. Le Club des Poètes, c'est un endroit merveilleux situé au 30 rue de Bourgogne. On s'y retrouve tous les mardis, vendredis et samedis pour y déclamer justement de la poésie. C'est cet endroit aussi qui nous réunit ce soir. On est donc impatients de vous y retrouver à l'occasion. Mais en attendant, voici quelques brefs moments de poésie capturé par les ondes. Mais où fait-il bon ? Où fait-il bon même au cœur de l'orage ? Où fait-il clair même au cœur de la nuit ? L'air est alcool et le malheur courage. Carreau cassé, l'espoir encore est lui et des chants monte de ces murs détruits, jamais éteint, renaissant de ses braises, éternel brûlot de la patrie, au point du jour jusqu'au Père Lachaise, ce doux rosier au mois d'août refleuri. Chant de partout, c'est le sang de Paris. Rien n'a l'éclat de Paris, la poudre, rien n'est si fier que son front d'insurgé. Rien n'est ni fort, ni le feu, ni la foudre, que mon Paris défiant les dangers. Rien n'est si beau que ce Paris que j'ai. Rien ne m'a jamais fait autant battre le cœur. Rien ne m'a jamais fait autant rire et pleurer. Comme ce cri de mon peuple vainqueur, rien n'est si grand qu'un linceul déchiré. Paris, Paris, soi-même libéré. Louis Aragon.
Me voici donc revenu parmi vous. J'ai retrouvé ma troupe ardente, j'ai trouvé aussi une scène, mais j'ai retrouvé avec douleur l'art théâtral sans grandeur, sans vertu, qui tuait les longs soirs d'avant la guerre, art calomniateur et délétère qui montrait le péché, non le rédempteur. Puis, le temps est venu, le temps des hommes. J'ai fait la guerre, ainsi que tous les hommes. C'était au temps où j'étais dans l'artillerie. Je commandais au front du Nord ma batterie, un soir, que dans le ciel, le regard des étoiles palpitait comme le regard des nouveaux-nés, mille fusées, issues de la tranchée adverse, réveillèrent soudain les canons ennemis. Je m'en souviens, comme si cela s'était passé hier. J'entendais les départs, mais non les arrivées. Lorsque de l'observatoire d'artillerie, le trompette vint à cheval nous annoncer que le maréchal des logis qui pointait là-bas sur les lueurs des canons ennemis l'alidade de triangles de visée faisait savoir que la portée de ces canons était si grande que l'on n'entendait plus aucun éclatement. Tous mes canonniers attentifs à leur poste annoncèrent que les étoiles s'éteignaient une à une. Puis l'on entendit de grands cris parmi toute l'armée. Ils éteignent les étoiles à coups de canon! Les étoiles mouraient dans ce beau ciel d'automne, comme la mémoire s'éteint dans le souvenir de ces pauvres vieillards qui tentent de se souvenir. Nous étions là, mourant de la mort des étoiles. Et sur le front ténébreux, aux livides lueurs, nous ne savions plus que dire avec désespoir. Ils ont même assassiné les constellations. Mais une grande voix, venue d'un mégaphone, dont le pavillon sortait de je ne sais quel unanime poste de commandement, la voix du capitaine inconnu qui nous sauve toujours, cria « Il est grand temps de rallumer les étoiles !» Et ce ne fut qu'un cri sur le grand front français. Au collimateur, à volonté, les servants se hâtèrent, les pointeurs pointèrent, les tireurs tirèrent, et les astres sublimes se rallumèrent l'un après l'autre. Nos obus enflammaient leur ardeur éternelle. L'artillerie ennemie se taisait, éblouie par le scintillement de toutes les étoiles. Voilà l'histoire de toutes les étoiles. Et depuis ce soir-là, j'allume aussi, l'un après l'autre, tous les astres intérieurs que l'on avait éteints. Me voici donc revenu parmi vous.
Commencer par un court poème. Mon âme de peine et de joie, celle qui s'élance et qui ploie, toujours pleine de vifs accords, mon âme si proche du corps, mon âme grave et fraternelle, qui porte toute chose en elle, mon âme d'ombre et de tourment est celle qui verse âprement le sang de la tendresse humaine, tandis que le désir vous mène sans repos, sans paix, et sans peur dans la vie où pleurent les cœurs. Allez par les rues de journée, ô mes âmes désordonnées.
Et voilà, c'était quelques petits extraits du 30 rue de Bourgogne, du Club des Poètes, endroit merveilleux où bien sûr nous vous donnons rendez-vous et où nous serons très heureux de vous retrouver. Grosso, alors ils se sont tous tués, mais je peux vous dire qu'ils se retiennent de rire car on a ouvert une bouteille de vin autour de la table, autant le dire. Non, il y a un paquet de chips qui traîne également. À mon avis, la soirée de poésie ne fait visiblement que débuter. Alors je voudrais vous remercier, merci à tous nos amis poètes de ce soir. Merci à Diana, Jeanne, Sophie, Louis, Yves, Simon. Merci à nos invités aussi. Et puis merci à Antonin pour la réalisation.
Merci.
Le but de cette émission étant de rendre la poésie contagieuse et inévitable, vous pourrez la retrouver en podcast sur le site de Radio Campus Paris, radiocampus.net, ou sur notre chaîne YouTube, Le Bateau Ivre. Quelques petits mots pour conclure l'émission, les amis. L'une ou l'un d'entre vous. Simon ?
Oui.
Je mets encore. C'était un bon début. C'est vrai que j'avais dit un ou quelques mots.
Non, mais c'est collectif, donc il faut aussi m'aider un petit peu. C'est pas très sympa. Mais
pas d'autres mots de conclusion.
Merci
donc.
En tout cas.
Et oui.
Merci à tous.
Alors effectivement, merci à tous et à toutes d'y avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et naturellement, n'hésitez pas à nous faire part de vos réactions sur notre chaîne YouTube, en dessous du podcast sur notre site internet. Il me reste à vous souhaiter une très belle soirée puisque nous sommes de notre côté arrivés à bon port et à vous dire à très bientôt en territoire de poésie.